Amen. Merci Seigneur, je te demande de bénir encore ces instants, Seigneur. Nous voulons nous tenir devant toi, parce que toi seul es digne de louange, d'honneur, d'adoration, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, parce que toi, Seigneur, tu es venu jusqu'à nous. Nous nous approchons de toi, mais tu es déjà venu tellement près de nous, Seigneur, dans notre cœur, pour nous remplir, nous rassurer, Seigneur, nous donner de l'espérance, de l'espoir, Seigneur, nous purifier, nous laver, pour nous pardonner, pour nous sauver, faire de nous, Seigneur, des enfants de l'éternité, Seigneur, tes enfants. Oh, je te loue, je te bénis de tous ces projets merveilleux que tu as pour chacun, chacune de nous, Seigneur. Tu es le Dieu du miracle, le Dieu de toute grâce, de toute miséricorde, le Dieu d'amour, Seigneur. À qui d'autre, Seigneur, irons-nous qu'à toi ? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur. Tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es, Seigneur, celui par lequel seuls nous pouvons être sauvés, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, que tu sois toujours si proche de nous, Seigneur. Tu es venu, Seigneur, afin que ta gloire, ta grâce, ton plan de bénédiction et de salut soit accompli. Et tu l'as parfaitement accompli. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon âme t'adore. Et moi aussi, Seigneur, je veux m'associer à tous ces bons vœux en te disant bonne année, Seigneur. Merci, mon Seigneur et mon Roi, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Et c'est vrai qu'en début d'année, on dit bonne année, bonne santé. Surtout la santé pour les gens plus âgés, la prospérité pour les gens plus jeunes. Mais la Bible, elle dit, cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. C'est dans la traduction de la bonne semence. Et c'est une parole inspirée. Je souhaite que vous prospériez à tous égards, ça veut dire que vous soyez heureux, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Et bonne année, bonne santé, surtout la santé ou la prospérité, ça fait assez surfait. Ça fait comme si quelque chose que l'on dit. Mais j'aimerais vous parler du souhait de l'Église de Christ. Et ça, c'est important. J'aimerais vous parler du cri intérieur de l'homme et de la femme qui est en Christ. Dans Apocalypse, chapitre 22 et au verset 7, Jésus annonce, « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Et cinq versets plus loin, il dit au verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Et voilà le cri de l'Église, le cri du cœur, le cri intérieur de l'homme ou de la femme qui est en Christ. Ce cri qui attend le retour de Jésus. Au verset 17, l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et ça fait référence à l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, c'est l'Église. C'est l'Église qui est composée de tous ses serviteurs qui sont nés de nouveau dans le monde entier, des cœurs qui ont été purifiés par le sang de Jésus, par l'agneau de Dieu. Et on peut se poser la question. On dit, je comprends que le cri du cœur des croyants soit « Viens Seigneur Jésus », mais pourquoi l'Esprit il crie aussi ça ? Pourquoi le Saint-Esprit, à la fin de l'Apocalypse, il dit « Viens, Seigneur Jésus, avec l'épouse ?» Parce que je crois, c'est ma conviction, je crois que c'est la dernière prière du Saint-Esprit. Sachant que son travail sur la terre est presque terminé, hein, l'Apocalypse n'est pas quelque chose de très chronologique, mais sachant que son travail sur la terre est presque terminé, l'Esprit, en même temps, de même que l'Église, dit « Viens, Seigneur Jésus. » Que Jésus vienne. Et permettez-moi de vous demander, quand est-ce que vous avez prié ainsi pour la dernière fois ? Quand est-ce que vous avez prié pour la dernière fois, « Seigneur Jésus, viens vite, viens bientôt. » C'est interpellant, hein ? Ça m'interpelle. Parce qu'on se dit, oui, il va bientôt venir, ça fait 20 ans, 30 ans, ça fait à peu près un peu plus d'une trentaine d'années, presque 40 ans qu'on a donné notre cœur à Dieu, Josiane un peu plus tôt que moi. Et on a toujours entendu ça. Viens, Seigneur Jésus. Je me rappelle même que quelqu'un avait tout jeté par la fenêtre. Chez lui, il avait jeté sa télé. Il criait, Jésus revient au jour cette semaine et tout. Vous voyez, c'était fort comme message qui avait été sur le cœur de cette personne. Mais il y a une chose qui est sûre. C'est que si je ne prie pas ainsi, je n'ai pas envie que le Seigneur revienne. C'est dur, hein? Mais c'est ce que dit la parole de Dieu. Car quand je prie en disant « Viens Seigneur Jésus », j'hâte le retour, la venue du Seigneur. Et dans 2 Pierre au chapitre 3 et au verset 12, il est écrit « Attends ». Et attendant et attend l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront. Et en grec, la phrase « hâter l'avènement du jour », ça veut dire « presser », ça veut dire « accélérer ». Pierre, il dit que nos prières, elles hâtent, elles accélèrent, elles pressent le Père de renvoyer Jésus sur la terre. Amen. Ça veut dire exactement ces choses-là. Et une seule chose retient le Seigneur. Une seule chose retient ce glorieux avènement. Ça ne vient pas de nous. Parce que je veux croire qu'on prie, qu'on dit « Seigneur, reviens bientôt ». Il y a une chose qui retient cet avènement imminent. C'est l'amour de Christ. Uniquement par amour pour les perdus. Dans 2 Pierre au chapitre 3 et au verset... Dans 1, oui, 2 Pierre au chapitre 3 au verset 9, je crois. C'est ça ? Oui, c'est ça. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, c'est-à-dire de son retour, comme quelques-uns le croient. Parce que les gens se moquent en disant « Ouais, vous dites toujours qu'il revient bientôt, mais il ne vient pas. » Les moqueurs parlent ainsi. Et je me réjouis toujours quand les gens disent ça. Moi, ça me fait un bien, une joie dans le cœur. Me disent « C'est en train d'accomplir la parole de Dieu. » Sans le savoir, la parole, elle s'accomplit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement. De la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et la patience pleine de bonté du Seigneur dicte le temps de son retour. C'est ça qui dicte le temps de son retour. Imaginez ce qui pourrait arriver si dans le monde entier, l'épouse de Christ, elle se réveillait et qu'elle priait dans l'esprit, « Viens Seigneur Jésus ». Viens bientôt, viens, 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 viens. Imaginez ces choses. Vous savez, moi, si c'était le cas, que tout le monde, je ne sais pas, soit pressé tous les jours, toutes les secondes, à prier ainsi, moi, ma prière pressante, elle serait, viens Seigneur Jésus, mais avant, donne à ma famille et à mes amis des oreilles pour t'entendre. Donne à ma famille, à mes amis, à ceux que j'aime, Seigneur, des oreilles pour entendre, parce que, Seigneur, ils ne sont pas encore prêts. Sauve-les. Sauve-les, Seigneur, parce qu'ils sont perdus. Ça serait ça, ma prière. Paul, il a écrit à son fils spirituel, qui s'appelle Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 3, « Nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » C'est intense. Est-ce que je peux dire, avec une conscience pure, que nous prions pour ceux de nos familles qui sont perdus avec une telle intensité? Je vous avoue que moi, pas. Je prie pour eux. Ah oui, il faut que je prie pour eux. Mais j'ai jamais été comme le Seigneur Jésus. En agonie dans le jardin de Gethsémané, pour que les perdus soient sauvés. Je n'ai pas été comme Paul, continuellement, jour et nuit, assaillé par cette pensée, il faut que ma famille elle soit sauvée, il faut que ma maman elle soit sauvée, mon frère, ma belle-sœur, et toutes les familles, et mes beaux-frères, je n'ai pas. Peut-être que vous l'avez, et merci Seigneur. Je me réjouis que ça soit ainsi pour vous. Est-ce que je veux mettre en avant cette priorité dans nos prières pour 2019? Le titre du message, de ce message ce matin, c'est « Pour cette année 2019, je m'engage à... » Est-ce que je veux faire ce prière pour ma famille une priorité. Jésus est l'épouse et moi, je fais partie de l'Église. Et en tant que partie de l'Église, en tant que corps de Christ, je suis l'épouse de Christ. Alors, un époux et une épouse, ils sont amoureux. Nous sommes amoureux l'un de l'autre. Et l'époux, lui, il nous a fait part de son absence pour un certain temps. Il a dit « Je pars, mais je reviendrai bientôt ». Il a dit « Attendez-moi, soyez bien, comme si j'allais revenir bientôt ». Pour moi, ça fait long, mais pour lui, ça fait à peine 2 jours. Puisque 1000 ans, c'est comme un jour. Pour lui, ça fait un temps qui n'est pas le même, c'est très court. Je pourrais avoir à boire, je m'excuse, si c'est gentil. J'ai jamais fait ça en 2018, mais je commence l'année 2019, c'est l'anniversaire, je commence par le champagne. Merci David, c'est formidable. Quand on est amoureux l'un de l'autre et que l'un s'en va, il part, on lui écrit des lettres d'amour. On dit « Ah, je t'aime » et tout. Mais c'est un petit peu comme ça. C'est comme si quelqu'un partait en Outre-mer. J'ai discuté hier avec quelqu'un qui me disait qu'il était parti à Tahiti pendant 2 ans. Il y en a certains qui le connaissaient, puisqu'il faisait partie de notre église, il s'appelait David Gachet. Voilà. Et il me disait qu'il était parti pendant à Tahiti, là déjà, ça faisait 6 mois, et qu'il allait repartir 2 ans, peut-être encore 2 ans. Voilà. C'était formidable. Et je me dis, mais imaginez que cette personne, elle soit partie, et que son épouse, pour l'instant, elle est encore ici. Elle lui écrive, elle lui dit « Ah, je t'aime, chérie, c'est formidable, c'est vraiment la personne, je suis vraiment content de t'avoir. » Mais jamais elle lui dise la phrase qu'il aimerait tellement entendre « Tu me manques tellement, s'il te plaît, mon amour, reviens vite. Je me languis de toi, je me languis de ton absence. Je voudrais t'embrasser, je voudrais te serrer dans mes bras, je voudrais te toucher, je voudrais marcher avec toi, je voudrais parler avec toi, je voudrais tenter ta tête, manger avec toi, je voudrais te serrer tout contre moi, reviens vite. » S'il te plaît. Est-ce que je suis prêt à accueillir mon Seigneur ainsi ? Seigneur, j'ai envie de te serrer contre moi. J'ai envie que tu sois là. J'ai envie que tu reviennes. Réfléchissez à ces questions d'abord. Quel fiancé n'a pas hâte de revoir avec empressement son amoureux ? Ou quelle est la fiancée qui ne se fait pas une petite beauté avant de rencontrer celui qu'elle aime ? Vendredi, avec Josiane, on a fait un séminaire couple. Voilà. Je l'ai inscrit sans lui demander. J'ai dit après, on s'est inscrit à un séminaire couple. Le séminaire couple, c'était sur la sexualité. Waouh ! C'était super. Et sincèrement, si un jour, on a déjà fait un séminaire couple ici, mais ce séminaire que j'ai fait, il aurait pu durer 1 semaine, ça ne m'aurait pas dérangé. Ça a commencé à 9h du matin jusqu'à 5h du soir. Et on s'est découvert l'un l'autre. Et il y avait quelque chose, je vous dis, c'est marrant, mais ça, c'est qu'une femme qui peut dire ça. Un gars, il ne dirait jamais ça. Et il disait, mais qu'est-ce qui empêche de faire l'amour ? Enfin, un frein à l'amour pétillant, il y avait l'amour... Et les femmes, elles ont dit cette parole, l'odeur. Jamais un gars, ça serait venu à l'esprit de dire l'odeur. C'est vrai ? Ce n'est pas un problème qu'on ne se soit pas lavé les pieds ou quoi que ce soit, mais une femme, c'était important. Enfin, c'est autre chose, c'est un petit truc, mais ce sont des choses qui sont tellement vraies. Une fiancée, elle va se faire une petite beauté avant de rencontrer celui qu'elle aime. Et puis encore, quel amoureux n'abandonnera pas toutes ses occupations pour passer plus de temps avec celle qu'il aime ? Dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 4 et au verset 11, il est écrit « Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. » Ça sent bon. « Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. » Il est amoureux. En cette année 2019, est-ce que nous voulons passer du temps dans sa présence ? Est-ce que nous voulons passer du temps à chercher la face de Dieu, à connaître sa volonté ? Est-ce que je veux chercher à lui plaire dans mon comportement de tous les jours ? Je n'ai pas envie de rester un gamin spirituel. Je n'ai pas envie que vous restiez des gamines spirituelles. Il est temps de grandir maintenant. Il est temps de penser à travailler à notre croissance spirituelle. C'est le temps de se discipliner, c'est le temps de se préparer, car celui qui nous aime revient bientôt. Amen, c'est pour bientôt. Alors il n'est pas question seulement de parure extérieure, il nous est parlé de la parure intérieure, qui est d'un grand prix devant Dieu. Un cœur paisible. La parure de notre cœur. Si une femme, elle prend soin de son apparence physique, nous devons donner de l'importance à notre sainteté, à notre sanctification. Imaginez, je ne sais pas quand le Seigneur va revenir, je ne sais pas à quelle heure il viendra, mais on peut savoir l'époque. L'époque, c'est le temps est proche. Il est dit qu'il viendra comme un voleur. Qui aimerait être surpris par la visite de la personne qu'il aime alors qu'il vient de se réveiller, qu'il n'est pas coiffé, qu'il n'est pas rasé, qu'il pue la transpiration? Je crois que c'est un malaise qui s'installerait. Ça serait assez difficile. On aurait envie de se cacher. Moins un gars qu'une fille. Mais c'est ainsi. Alors, décidons aujourd'hui de s'engager. Décidons aujourd'hui qu'il est temps pour nous de mourir spirituellement. Décidons qu'il est temps de nous fortifier dans la parole de Dieu et dans la prière. Amen. Il y a quelques années, et c'est hier soir, ce n'était pas prévu, en faisant ce message, il m'est revenu un message que j'avais fait il y a 17 ans. C'était un message qui était tiré d'un livre de David Wilkerson, ou plutôt d'un message de David Wilkerson, ça s'appelait « Une Pentecôte sans Christ ». Et il y a 18 ans, peut-être que vous ne vous rappelez pas de ces choses, mais peut-être si vous les rappelez, tant mieux, mais pour les autres, j'aimerais juste vous apporter rapidement le canevas de ce message. Il y a un homme qui s'appelle Frank Barthelmann qui a été un témoin oculaire de l'effusion du Saint-Esprit en 1907. Je vais vous expliquer. En 1907, à Los Angeles, dans une rue qui s'appelle Azusa Street, c'est spécial, hein, c'est vraiment quelque chose de spécial, il y a des hommes, brahmanes, toutes ces choses-là, qui se sont mis à prier, à vraiment prier pour que Dieu fasse quelque chose. Et à un moment donné où ils priaient, des langues de feu sont tombées sur eux. Et le baptême du Saint-Esprit a eu lieu dans leur vie. Et leur vie, elle a été transformée. Il y a eu une effusion du Saint-Esprit en cette année 1907 à Azusa Street. Et cet homme, Frank Barthelmann, on a pu l'appeler le reporter du réveil d'Azusa Street. Et c'était il y a un peu plus de 110 ans. Il a écrit un traité, un tract ou un flyer, comme on dirait aujourd'hui, mettant en garde contre une Pentecôte sans Christ. Alors, je vais vous lire ce qu'il a écrit. Nous ne pouvons tenir une doctrine ou chercher une expérience si ce n'est en Christ. Plusieurs désirent chercher la puissance pour faire des miracles. Ils veulent attirer l'attention ou l'adoration des gens sur eux-mêmes. C'est ainsi qu'ils dérobent à Christ sa gloire et mettent l'homme charnel en évidence. Ce dont les vrais disciples ont le plus besoin, c'est du Jésus doux et humble de cœur. L'enthousiasme religieux monte facilement en graines. L'esprit humain veut prévaloir sur le spirituel, mais nous devons nous en tenir à notre texte, Christ. Toute œuvre qui exalte le Saint-Esprit ou les charismes, plus que Jésus, aboutira finalement au fanatisme. Tout ce qui nous pousse à exalter et à aimer Jésus est bon et saint. Le contraire ruinera tout. Le Saint-Esprit, c'est une grande lumière, mais qui est toujours dirigée sur Jésus, afin de le révéler. Quand le Saint-Esprit contrôle la situation, Jésus est proclamé comme la tête et le Saint-Esprit son exécutif. Et puis il écrit plus loin, « La tentation semble nous conduire à des manifestations vaines. Elle n'exige ni la croix, ni la mort à soi-même, de là leur popularité. Nous ne pouvons pas mettre la puissance, les dons, le Saint-Esprit ou quoi que ce soit plus haut que Jésus. Toute mission qui exalte même le Saint-Esprit plus que le Seigneur Jésus finira dans les écueils de l'erreur ou du fanatisme. Il semble qu'il y a un grand danger de perdre de vue le fait que Jésus est tout en tous. » L'œuvre du calvaire, l'expiation doit rester au centre de notre considération. Le Saint-Esprit révélera Christ de manière plus complète. Nous risquons de manquer envers Jésus, de le laisser perdu dans le temple quand nous exaltons le Saint-Esprit ou les dons spirituels. Jésus doit être au centre de tout. Amen. Et moi, je ne prends pas cet avertissement à la légère. Le danger d'une Pentecôte sans Christ, c'est très réel aujourd'hui. C'est possible de rassembler des gens remplis de l'Esprit dans un endroit, de les voir louer, de les voir lever les mains, et pourtant Christ marche au milieu d'eux comme un étranger. Les Juifs, ils se rassemblaient. Ils se rassemblaient chaque sabbat dans les synagogues pour parler de son nom, pour prophétiser sur sa venue. Ils louaient le nom du Père qui promettait d'envoyer le Messie. Ils prononçaient le nom du Messie avec crainte. Avec révérence, ils n'osaient même pas le prononcer. Et pourtant, quand il est venu marcher parmi eux, ils ne l'ont pas reconnu. Pour eux, il était un étranger. Vous auriez pu imaginer cela ? Jésus, un étranger au milieu d'une église remplie de l'Esprit. Un étranger au milieu de ceux qui l'appellent par son nom, qui adorent le Père qui l'a envoyé. Un étranger au milieu de ceux qui chantent « Hosanna » en son honneur, qu'il appelle « Seigneur, Seigneur ». C'est terrible ce que je vous dis ce matin. Mais c'est mon souhait, ma prière pour 2019, c'est que ça ne soit pas ainsi parmi nous. Que ça ne soit pas ainsi pour nous. Alors, comment on fait un étranger ? Comment on fait de Jésus un étranger parmi nous ? Et là, je voudrais revenir au message de David Wilkerson. Nous faisons de Christ un étranger quand nous donnons au Saint-Esprit la prééminence sur lui. Christ et Christ seul doit être le centre de la vie et de l'adoration. Il est la tête du corps de Christ, Colossiens 1, versets 18 à 19. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car il a plu au Père de faire habiter en lui toute plénitude. Quand toute chose, Jésus est la première place. Quand toute chose, c'est-à-dire qu'il soit au-dessus de tous, même le Saint-Esprit, ne peut pas être et ne doit pas être exalté plus que le nom de Jésus. Autrefois, vous voyez, les chrétiens, ils priaient tous au nom du Père. Ensuite, on a prié au nom de Jésus. Et maintenant, c'est plus souvent des prières au Saint-Esprit que l'on entend. C'est Jésus qui a envoyé l'Esprit. Ce n'est pas le contraire. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est toujours de nous révéler la plénitude du Seigneur Jésus parmi nous. Quand le Saint-Esprit devient le centre de notre attention, l'Église, elle est décentrée. Parce qu'il n'y a plus le même centre. Ça s'est décalé. Christ, il parle à ses disciples d'une prochaine Pentecôte. Il dit, quand l'Esprit sera répandu dans un seul but, magnifier le nom du Seigneur Jésus. Mais vous, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Pas les témoins du Saint-Esprit. Vous serez mes témoins. Jésus, il l'a dit clairement. Il est très clair. Il dit que quand le Saint-Esprit viendra, Il n'attirera pas l'attention sur lui-même, mais il mettra toujours l'accent sur les œuvres de Christ. Il exaltera Christ. Dans Jean au chapitre 16, au verset 13, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira toutes choses qu'il aura entendues. Il annoncera les choses à venir, au verset 14. Il me glorifiera. C'est Jésus qui dit cela. Car il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Au verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jésus dit, il vous montrera ma gloire, il vous montrera ma puissance, il vous montrera mon royaume, il vous rappellera toutes mes paroles. Et le premier travail du Saint-Esprit, ce n'est pas la communion fraternelle, quoi qu'il amène les croyants à être unis tous ensemble. Il ne produit pas l'extase, quoi qu'il puisse nous saisir, et comme dit Paul, nous ravir jusqu'au troisième ciel. Il ne veut pas seulement nous enseigner une langue inconnue, quoique je me réjouisse de parler en langue, de parler les langues du ciel. L'Esprit est venu pour exalter Christ. L'Esprit est venu pour guider toute l'humanité dans la vérité que Christ est le Seigneur. Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit pour enflammer nos âmes. Le Saint-Esprit enflamme nos âmes envers les perdus. Il enflamme nos âmes pour nous envoyer sur les places, dans les quartiers, chez nos voisins, nos collègues, nos familles, pour atteindre les pécheurs, pour secouer notre paresse, pour nous qualifier pour son œuvre. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Il agit dans nos cœurs. C'est quoi une vraie assemblée de Pentecôte? Est-ce que c'est une assemblée où les gens parlent tous en langue? Est-ce que c'est une assemblée où les gens sont guéris? Où les saints sautent de joie, où les morts ressuscitent? Est-ce que c'est une assemblée où les saints prophétisent? C'est beaucoup plus que cela. C'est une assemblée où le Seigneur est adoré, où le Seigneur est exalté. C'est ça une assemblée de Pentecôte. Christ est tout et en tous. On fait de Jésus un étranger quand on donne au Saint-Esprit la prééminence. On fait de Jésus un étranger quand on le loue, mais qu'on ne le prie pas. On loue un Christ que nous ne prions pas. On est devenu un peuple qui loue, un peuple qui adore, mais qui ne prie plus. On fait une soirée de louange, la moitié de l'église. On fait une soirée de prière, 10 personnes. C'est des fêtes, je le constate. Ça, c'est incroyable. Oui, mais non. Pour beaucoup d'enfants de Dieu, la chambre de prière, puisque Dieu dit, Jésus dit, mettez-vous dans votre chambre et là, priez le lieu, votre Père qui voit dans le secret, mettez-vous à part pour prier. La chambre de prière, c'est une relique du passé. On a tout mis, vous savez, c'est le débarras, le cajibi, enfin tout ce que vous voulez. Vous avez tout mis là-dedans, vous n'osez même pas ouvrir la porte parce que si vous l'ouvrez, ça va vous tomber dessus. C'est une relique. On veut de Jésus, on ne veut pas tellement du Seigneur. On a seulement envie de ce qu'il peut faire pour nous. De Jésus, on veut son pouvoir de guérison. On veut ses promesses de prospérité. On veut sa protection. On veut qu'il agisse dans la famille, qu'il pose sa main sur nous, qu'il nous fasse du bien. On désire davantage des richesses terrestres. Et ça, c'est vrai. Agis dans ma vie, fais-moi prospérer, agis, tu guéris mes enfants, tu poses ta main. Amen. On veut les bonheurs qu'il nous donne, mais est-ce qu'on le veut, lui, en réalité? Est-ce que je le veux réellement? Imaginez un petit peu. On va imaginer. Imaginez combien parmi nous le servirait s'il ne nous offrait que lui-même. C'est-à-dire qu'il vient sans guérison, sans succès, sans prospérité, sans bénédiction terrestre, sans miracle, sans signe, sans prodige. On voudrait un Jésus comme ça? Qu'en serait-il si on acceptait, comme il est écrit dans la parole de Dieu, de se laisser eh bien, dépouiller joyeusement de nos biens? Qu'en serait-il au lieu de naviguer par temps clair, de vivre sans problème, nous faisions face au naufrage? La Bible dit « crainte au-dedans et lutte au-dehors ». Qu'en serait-il exactement, réellement de Jésus? Qu'en serait-il de nous si au lieu d'une existence sans souffrance, nous subissions toujours des cruelles moqueries, de la lapidation, l'effusion de sang, que nous serions sciés en deux, les galères? Moi, quand je pense à toutes ces choses, mais je me dis, mais est-ce que j'aurais pu tenir? Ces gens qui ont été lapidés, ces gens qui ont été envoyés aux galères, ces gens qui ont vu eh bien, leur enfant, leur femme pendus, jetés dans l'eau, noyés, brûlés, décapités. Seigneur, protège ma famille. Seigneur, agis dans ma vie. C'est une prière normale. Mais Jésus seul. Qu'en serait-il si au milieu de nos maisons, de nos belles voitures, on devrait errer dans les déserts, vêtus de peau de mouton, nous cacher dans des grottes, dans des cavernes, faire des réunions de prière ou avec des cultes sans que personne ne le sache? Quand on voyait ces chrétiens qui partaient au désert, qui partaient au milieu de la nuit faire une réunion, ils se retrouvaient en plein milieu de la forêt. Par la pluie, par n'importe, par la neige, ils se réunissaient pour entendre quelqu'un qui parle de l'amour de Christ. Qu'en serait-il si au lieu de la prospérité, on était dénué de tout, affligé, tourmenté? Qu'en serait-il si le seul privilège qui nous serait accordé, c'est Jésus? Qu'en serait-il? Ça me parle. Il y a bien peu d'enfants, c'est un constat. Il y a bien peu d'enfants de Dieu qui prient encore. Il y a des gens qui ont fait des statistiques, pas plus de 3 minutes. 8 minutes pour les serviteurs de Dieu. C'est plus, hein. Pourquoi on prie plus? Parce qu'on est trop occupé à travailler pour Jésus. Je ne dis pas qu'on est trop occupé ailleurs. Hein. Je dis parce qu'on est trop occupé à travailler pour Jésus. On n'a plus le temps de lui parler. Moi, je ne peux pas faire 2 choses en même temps. Alors si je travaille, je ne prie pas. Si je prie, je ne travaille pas. Vous voyez, c'est toutes les choses. Aujourd'hui, les pasteurs, ils sont devenus si occupés des affaires du royaume, des réunions, des organisations, des visites, des messages, des administrations, des plannings, des agendas, qu'il leur reste peu de temps libre, ou même pas de temps libre pour prier. On a tous du temps pour visiter sa famille, pour nous distraire, pour voyager, pour bricoler, pour lire, du temps pour les vacances, du temps pour les repas de fin d'année, hein, il y en a eu beaucoup. Hein. Et ça, c'est super, et ça me réjouit. Mais est-ce que nous avons assez de temps pour prier? Quand on ne prie plus, vous savez ce qui se passe? On entreprend beaucoup. C'est ainsi. Hein? Moins je prie et plus je fais. Mais moins je prie et plus je perds contact avec Dieu. Alors on perd contact aussi avec les gens et avec leurs besoins. David Wilkerson, il a dit... Quelqu'un a dit, on remplace l'onction par la transpiration. Et pour cette année 2019, on veut prendre cette résolution. Je veux prendre cette résolution. Et je parle pour moi. Hein. Je suis en train d'accuser personne. J'ai un constat. Je veux prendre cette résolution de ramener la prière dans ma maison. Vous pouvez prendre cette résolution de ramener la prière dans nos maisons. C'est notre souhait, mais c'est aussi notre problème. C'est notre problème. Comment on va faire? Le problème du Seigneur, vous savez ce que c'est? C'est d'amener l'Église à prier. Ça, c'est le problème du Seigneur. Son problème, c'est d'amener les élus, les saints, à prier. Et ne dites pas ce matin, je suis si occupé, je n'ai pas le temps de prier, je voudrais bien, mais je n'ai pas le temps, vous voyez. Non, ce n'est pas un manque de temps. C'est un manque de désir. On prend du temps pour ce que nous voulons vraiment faire. Et le diable sait aussi. Un homme qui prie fait trembler l'enfer. Un homme ou une femme à genoux se fait remarquer parce que Satan sait que la prière, c'est la puissance qui ébranle son royaume. Alors, le Satan ne craint pas les saints qui sont affamés de puissance. Non. Il tremble au bruit d'un saint qui prie. Le diable tremble au bruit d'un saint qui prie. Le diable tremble et ne peut pas rester dans une église qui prie. La troisième chose, on fait de Christ un étranger parmi nous quand on désire sa puissance davantage que sa sainteté. Un jour, il y a un pasteur qui a lancé un défi dans son église. Il a dit à son église, je ne ferai pas, hein, c'est, de toute façon vous savez le message, donc ça ne marcherait pas pour vous. Il a lancé ce défi, il a dit voilà, je voudrais vous lancer un défi au sujet de la puissance et de la pureté. Il a dit, ceux qui veulent la puissance à ma droite, ceux qui veulent la sainteté à ma gauche, 1 sur 10 est allé dans la puissance. Un sur 10. C'est énorme. C'est-à-dire que sur 100 personnes, il y en a 90 qui voulaient la puissance, mais seulement 10 qui voulaient la sainteté. J'ai dit le contraire? Ah, je vous le redis. 1 sur 10 a choisi la sainteté. Ah, je vous ai dit la puissance. 1 sur 10 a choisi la sainteté, j'ai bien fait de répéter. Hein. Et 90 ont choisi, ou 9 ont choisi la puissance. Dans le livre des Actes, la Pentecôte était synonyme de sainteté plus que de puissance. Quel est l'homme ou la femme de Dieu qui a la puissance? Est-ce que c'est celui ou celle qui peut guérir les malades, ressusciter les morts? Est-ce que c'est celui ou celle qui peut le mieux parler en langue ou prophétiser? Est-ce que c'est celui qui attire le plus de monde et bâtit la plus grande église? Non. Celui qui a la puissance, c'est celui qui a la pureté. C'est celui qui vit dans la sainteté. Proverbe, chapitre 28 et au verset 1. Le juste a de l'assurance comme un lion. Proverbe 28, verset 1. Le juste a de l'assurance comme un lion. Il est puissant. Pourquoi? Parce qu'il est saint, parce qu'il est juste. Alors il a de l'assurance. Est-ce que je suis prêt pour la venue du Seigneur? Parce que ma Bible, la mienne et la vôtre, elle vous dit que le Seigneur revient pour une église de vainqueurs à celui qui vaincra. Une église qui est sans tache ni ride, un peuple qui s'affectionne aux choses d'en haut, un peuple aux mains propres et au cœur pur, un peuple qui attend sa venue, un peuple qui est cet état d'âme de la nouvelle Jérusalem, où tout est parfait, où il n'y a personne d'impur, où la médisance, le mensonge, toutes ces choses n'existent pas. Qui a ce cœur, moi je veux en faire partie. Décidons-nous, engageons-nous pour 2019 à rechercher à mieux connaître notre fiancé, de le mettre au centre de notre vie, de le mettre au centre de l'Église, afin de pouvoir lui faire plaisir. Ne laissez pas les moqueurs parler. Ceux qui disent, mais où est celui que vous annoncez? Au contraire, je vais hâter sa venue par la prière, par ma prière, par nos prières, par l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Amen. Je demande à Bastien de venir, groupe de louanges aussi. Je crois que c'est le temps. C'est le temps aujourd'hui et pour 2019 de se préoccuper de cela, de hâter sa venue, de plonger dans la prière, de marcher bien comme le Seigneur attend que je marche, de mettre Christ au centre. On veut voir plein de choses, des mouvements de ceci, cela, mais non, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est Jésus-Christ. C'est lui et lui seul. Qu'est-ce que j'en ai à voir, moi, personnellement, de voir des gens qui tombent quand je prie pour eux? Ça ne m'émeut pas. Un jour, on me l'a fait, le coup. On me l'a fait, un jour, je priais pour quelqu'un. C'était... J'avais jamais vu ça, jamais. Je priais pour quelqu'un, et puis, à chaque fois que je priais, la personne, elle se baissait, elle remontait la tête. Alors, moi, je ne comprenais pas. Et puis, elle remontait la tête toujours plus haut. Puis, je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Alors, moi, je repressais. Et elle attendait qu'une chose, c'est que je presse fort pour qu'elle tombe par terre. Et j'ai bien vu, alors je l'ai tenu, j'y ai dit, arrête maintenant. Mais c'est un cas, c'est peut-être l'exception, mais ce n'est pas un problème. Que les gens tombent ou que les gens ne tombent pas, ce n'est pas un problème. Qu'il y ait des miracles ou qu'il n'y ait pas de miracles, ce n'est pas un problème. Qu'il y ait des morts qui ressuscitent ou qui ne ressuscitent pas, ce n'est pas un problème. Que tu sois guéri ou que tu restes malade, ce n'est pas un problème. Que Dieu réponde à ta prière, tu pries ou qu'il ne réponde pas, ce n'est pas un problème. La seule chose qui est importante, c'est Jésus. C'est ça. Et le reste sera donné par-dessus. Il est écrit, cherchez premièrement, d'abord. Je m'engage à mettre Christ d'abord, lui d'abord. Le reste, ce n'est pas un problème. Mais nous, on a basculé les choses. On l'a recouvert. Je vous disais ça, ou peut-être que je ne vous l'ai pas dit. Peut-être que je l'ai dit à quelqu'un d'autre. Peut-être que je l'ai dit à quelqu'un d'autre. Pas à vous. J'avais entendu une prédication d'un pasteur qui disait, un jour, c'est quelqu'un qui s'appelle Patrice Martorano, ce pasteur, et il disait qu'il avait entendu cette histoire. C'est qu'un jour, un ami, enfin quelqu'un, avait invité à, chez lui tous des amis pour l'anniversaire de son bébé. Il y avait un petit bébé qui devait, il avait peut-être un an, ou, voilà. Et donc, il l'avait invité. Attends, j'ai pas fini. Merci. Mais c'est bien. Mais je crois que c'est trop long alors. Mais vous pouvez applaudir David parce qu'il fait, c'est formidable. Donc cet homme, ce pasteur, il racontait cette histoire que une personne avait invité à l'anniversaire de son enfant tous des amis. Et puis donc ils sont arrivés vers 8h du soir, 7-8h, et puis le bébé était fait, l'enfant il avait un an, il dormait quoi. Donc il était dans une chambre, et puis donc les amis sont venus, ils ont, sont débarrassés de leurs affaires et tout, bref. Et puis au bout de, d'une heure, ils ont dit, la maman a dit on va aller réveiller notre petit enfant quoi. Et quand ils ont voulu aller le réveiller, ils ne le voyaient plus l'enfant. Il était en dessous des habits, et il était mort. Ce que je veux dire, c'est qu'on a recouvert Jésus de tellement de choses. Manifestation de ceci, de cela. On le recouvre et on le recouvre, on le recouvre, on le recouvre. Et c'est ça qui est important. Il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait cela, il faut qu'il y ait des manifestations de la puissance, il faut que Dieu nous parle. Mais Dieu ne peut plus parler, parce qu'il est étouffé. Enlevons toutes ces choses. On va enlever toutes ces choses et on va laisser le Seigneur au centre. Et vous verrez que Dieu va manifester sa puissance par des miracles, par des prodiges, par des guérisons, par des choses extraordinaires. Mais laissons à Dieu la soigne parler. Ne l'étouffons pas. Amen. Que Dieu puisse se glorifier. Je ne sais plus, je ne peux plus le faire avancer. Ouais, ça marche. Amen. C'est aujourd'hui le temps pour 2019 de se préoccuper de ces choses. Jésus peut revenir d'un moment à l'autre. Seigneur, je ne peux plus continuer sans toi près de moi. Je ne peux plus continuer sans toi. Je ne veux pas être éloigné de toi. J'ai besoin de toi près de moi. Tout près. Est-ce que vous entendez le Seigneur Jésus? Il dit, oui, je viens bientôt. C'est ce qu'il dit dans Apocalypse chapitre 22 au verset 20. Il dit, oui, je viens bientôt. Et qu'est-ce que répond l'épouse? Qu'est-ce que répond l'Église? Amen. Viens, viens Seigneur Jésus, viens. Les années se suivent, mais moi, je peux les rendre différentes par mon attitude, par mon engagement, par mes résolutions. Je m'engage. Je m'engage en cette année 2019 à mettre en avant cette priorité pour le salut de ceux que j'aime. Viens Seigneur Jésus, mais sauve ma famille, sauve ma maman, sauve mon frère, ma belle-sœur, sauve-les mes beaux-frères, sauve ceux que j'aime. Je veux en faire une priorité. Viens Seigneur Jésus, à toi de venir, mais je veux qu'il soit sauvé. Je m'engage en cette année 2019 à me tenir prêt pour ta prochaine venue Seigneur. Je me prépare en tant qu'épouse à être belle. Je me prépare à t'accueillir. Je veux sentir une bonne odeur, l'odeur de Christ. Je veux que cette odeur, elle soit sur moi. Je m'engage, Seigneur, à te remettre au centre de ma vie. En 2019, je m'engage à te remettre au centre de l'Église. Je m'engage à passer du temps dans ta présence. Je m'engage à chercher ta face. Je m'engage à chercher à connaître ta volonté. Je m'engage en cette année 2019 à chercher à te plaire dans mon comportement de tous les jours. Je m'engage, Seigneur, à chercher le donateur plus que le don lui-même. Je m'engage en 2019 à marcher sur le chemin de la sainteté, en passant du temps sur le sentier de ta parole, en passant du temps dans la prière, dans le lieu secret. Je m'engage, Seigneur, à ramener la prière au centre de ma maison. Je m'engage, Seigneur, à ramener la parole au centre de mon foyer. Je m'engage à parler de toi. Je m'engage à te servir. Je m'engage à être amoureux de toi et en tant qu'épouse, à me faire belle pour toi. C'est mon engagement pour l'esprit, pour 2019. L'esprit et l'épouse disent, viens. Amen. Et le Seigneur Jésus dit, viens, oui, alors je viens bientôt. Et quand l'épouse de Christ entend cette prière, cette parole du Seigneur qui dit « Oui, je viens bientôt », l'épouse, elle dit « Amen, Amen, Seigneur, viens, viens, Jésus, viens, Seigneur Jésus, Amen. » Je ne sais pas si c'est le désir de votre cœur, mais c'est mon désir. Que le Seigneur revienne, qu'il vienne d'une façon ou d'une autre, mais qu'il revienne bientôt, Amen. Alors je vais appeler sa venue, Alléluia. Je vais faire pour qu'il soit bien quand il arrive, qu'il me trouve prêt, qu'il me trouve veillant et priant. Qu'il me trouve résolu à faire sa volonté. Je peux faire plein de choses, je peux passer du temps avec beaucoup d'autres choses. Mais Seigneur, j'ai envie de passer du temps avec toi. C'est un engagement. On prend beaucoup de résolutions en début d'année. On ne les tient pas beaucoup. Mais cette résolution-là, vous pouvez la marquer. Vous pouvez l'inscrire. Vous pouvez la mettre sur votre... Une femme, elle va la mettre dans son armoire de cuisine. Quand elle va ouvrir son buffet, elle va voir ça. Quand son mari, lui, va venir poser la table, quand il le fait, mais il va voir cet engagement. Les gars, on peut coller ça sur notre rasoir. On peut le mettre sur le miroir, sur l'ordinateur. Qui prenne peut-être pas tout, la place, mais qu'il soit là. C'est un engagement. Et cet engagement, c'est vous qui le prenez. Moi, je m'engage. Mais toi aussi, tu peux le faire. Et combien l'Église, elle va fleurir. Et combien le Seigneur sera ému. Parce que Jésus est ému. On oublie ces choses. Jésus a pleuré dans le jardin de Gethsémani. Jésus a pleuré à l'enterrement de Lazare, quand Lazare était dans le tombeau. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il est ému. Quand il voyait toutes ces foules qui venaient comme des brebis errantes sans berger, il était ému de compassion. Quand il va voir qu'on se fait beau pour lui, belle en tant qu'église pour lui, il va dire « je craque pour eux, je craque, je reviens bientôt ». Ça me fait du bien. Bonne année 2019.